Alors, quand on dit faire un complément dithyrambique, ça veut dire c'est un compliment excessif, hein, trop grand. Donc ces dithyrambes, c'est la poésie grecque. Hein. Et ces dithyrambes sont récités au départ par ce qu'on appelle le chœur, c'est-à-dire un groupe de gens qui disent ces textes poétiques ensemble, en chœur. Et au bout d'un moment, il y a un des auteurs qui se met à répondre à ce que dit le chœur. C'est le début du théâtre grec. C'est-à-dire un personnage qui parle en face du chœur, et puis progressivement on va passer à deux personnages, on va passer après à trois personnages, pour aboutir enfin au théâtre tel qu'on peut le connaître par la suite. Voilà, c'était un petit morceau d'historique du théâtre grec, pour revenir à la question de tout à l'heure qui est... les pièces de théâtre sont-elles nécessairement en cinq actes, hein? Donc on va avoir, on galope très vite jusqu'au... On pourrait s'arrêter au théâtre du Moyen-Âge français, par exemple, mais là j'avoue que je n'ai pas en tête l'organisation du théâtre, voilà, comment c'est structuré. Moi je dirais très souvent peut-être, mais... Je pars. C'est peut-être organisé plutôt en tableau qu'en acte. Voilà. On passe d'une scène à une autre. Hein, ce qu'on appelle des tableaux, d'une scène à une autre. Le théâtre du Moyen-Âge est souvent représenté dans les églises. Après, le propos devient un peu plus gênant. Donc, on joue devant l'église. Et puis après, il va y avoir la séparation de l'église et du théâtre. Vous savez que Molière, on ne veut pas l'enterrer en terre chrétienne parce que c'est un comédien. Hein. Ça sent le soufre. Le théâtre, c'est le diable parce que l'auteur se permet d'inventer des vies, ce que seul Dieu a le droit de faire. Hein? Voilà un petit peu le point de départ. Et puis, on raconte aussi très longtemps que les comédiens ont une vie licencieuse, c'est-à-dire qu'ils couchent entre eux, etc. Voir le film sur la vie de Molière... Hein, les échanges, on ne sait pas trop si Molière était dans le lit d'Armande Béjart, la fille, ou de Madeleine Béjart, la mère. Est-ce qu'il est passé dans les deux? Ses copains sont-ils passés par là? Armande a dû le faire cocu 107 fois parce que dans les pièces de Molière, on a le cocu magnifique, on a Georges Dandin, etc., des tas d'histoires qu'il a pu vivre parce qu'il avait quand même 20 ans de différence avec Armande. Donc c'est quand même pas mal, même si à notre époque c'est des différences qu'on voit également, hein, c'est pas si extraordinaire. Alors après on va passer, le théâtre au XVIe siècle, ça existe, mais disons qu'on n'en parle pas énormément, on parle beaucoup plus de la poésie, Ronsard, du Bellay, au XVIe siècle. Donc, un âge d'or du théâtre, ça va être le XVIIe siècle. Louis XIV, Molière, Corneille, Racine. Hein, Louis XIV qui va entretenir la troupe de Molière, qui va donner de l'argent. Et là, on a très traditionnellement des pièces en cinq actes. Très traditionnellement des pièces en cinq actes. Pourquoi en acte? Parce qu'on a besoin d'éclairer la scène, qu'au bout de 20 minutes, les chandelles sont mortes, qu'il faut descendre les lustres, remettre de nouvelles chandelles et éclairer à nouveau. C'est le départ des actes, la division en actes, c'est ça. On a besoin de changer les chandelles toutes les 20 minutes. Voilà. C'est pour ça, c'est divisé en 5 actes. Et c'est pour ça que maintenant, quand on présente une pièce en 5 actes, très souvent, on la coupe simplement en deux. Hein? C'est-à-dire qu'on a... La première partie, on met deux ou trois actes, souvent d'ailleurs peut-être trois actes, hein, et les deux derniers actes après l'entracte, si on met un entracte, hein, pour que les gens puissent respirer, et encore, hein, c'est pas rare qu'on aime jouer, pas les faire sortir de l'ambiance en plein milieu de la pièce, puisque ça tue un peu la magie. Alors après, pour Beaumarchais par exemple, pour le mariage de Figaro, donc on voit ici que c'est en 5 actes, sauf erreur de ma part, la pièce précédente, Le Barbier de Séville, il l'a écrite au départ en 5 actes, ça n'a pas trop bien marché, et il l'a refaite après en quatre actes. Hein, à vérifier ce détail, hein, mais il me semble bien. Voilà, donc ça peut être en 5, ça peut être en 4. Et après, tu as toute une série de pièces, parce que on écrit beaucoup de pièces de théâtre au 19e siècle, autant qu'on écrit des romans. Mais va naître un genre nouveau au 19e siècle qui s'appelle le vaudeville. C'est des pièces relativement légères. Au départ, le terme vaudeville, c'est une chanson. Après, ça devient une chanson qui sert d'intermède dans une pièce de théâtre. Hein, par exemple, dans Le mariage de Figaro, à chaque fin d'acte, tu as des chansons. Ça s'appelle encore des vaudevilles. Mais après, donc là on est au 18e, au 19e, ce qu'on va appeler le vaudeville, c'est ce qu'on va appeler aussi des pièces de boulevard plus tard, parce que ça sera joué sur les boulevards autour de Paris. Hein, ça sera des pièces légères dans lesquelles, bon, des pièces rapidement écrites. Hein. Certains auteurs, comme Eugène Labiche, par exemple, ont écrit, produit 90 pièces de théâtre. En se faisant d'ailleurs aider par des... Voilà, il y a des gens qui... Ils en mettent 3 ou 4 amis, etc., à écrire avec eux. Mais ça se produit, que c'est presque des produits d'usine, en quelque sorte. Et donc, on va avoir dans ces pièces qui sont écrites rapidement et légères, on va avoir beaucoup de pièces en un acte. Énormément, dans lesquelles... Alors, en particulier, je pense à une pièce de Feydeau, par exemple... Un exemple de vaudeville qui s'appelle La puce à l'oreille. C'est une pièce dans laquelle on ne peut même pas diviser en scène, parce que qu'est-ce que c'est qu'une scène? C'est quand il y a quelqu'un qui sort ou quelqu'un qui rentre. Et dans ce genre de pièce, c'est construit quasiment sur les entrées et les sorties sans arrêt. Hein, c'est-à-dire que cette pièce-là, la puce à l'oreille, il y a sans arrêt des gens qui, voilà, qui rentrent, qui sortent. Hein, c'est tout un jeu de portes et de rythme dedans. Donc là, même la structure en scène, ça éclate, quoi. On ne peut pas noter en scène comme ça, c'est pas possible. À chaque entrée, chaque sortie, parce que ça n'arrête pas. Hein. Tout est dans la vitesse, en quelque sorte. Voilà, je pense que j'ai répondu. Toutes les structures... Alors, on va compléter quand même, parce que toutes les structures sont bonnes. Toutes les structures sont bonnes. Et je dirais, dans le théâtre contemporain, on a parlé tout à l'heure, dans le théâtre contemporain, on va aller du spectacle qui est du spectacle à texte, en quelque sorte, qu'on a là. Tu as vu qu'on pouvait dériver vers la chanson et vers l'opéra, hein, parce que on va passer de Molière à Lully, les opéras de Lully. Beaumarchais, au départ, voulait en faire des opéras, d'ailleurs, de ces deux pièces de théâtre, Le Barbier de Séville et Le mariage de Figaro. Il a renoncé. Il en a fait des pièces de théâtre. Mais maintenant, on arrive à ce qu'on appelle, d'une certaine manière, le théâtre total, c'est-à-dire que c'est un spectacle visuel, c'est-à-dire que tu peux avoir un spectacle de théâtre dans lequel il n'y a quasiment pas de paroles, dans lequel il n'y a que des choses à voir. Hein? Tu peux avoir aussi de la musique, tu vois, on en fait un spectacle du chant, hein? On en fait un spectacle total, en demandant, pourquoi pas des acrobaties, hein? En demandant à l'acteur de savoir tout faire, à peu près, hein, sur scène. Voilà, donc on dérive vers le spectacle total. Voilà. Et en plus, alors dernier petit détail, vers le spectacle international, c'est-à-dire que, bon, on avait déjà, à l'époque de Molière, les comédiens italiens ont joué en France en italien, la Commedia dell'arte. Hein. Mais à notre époque, on peut jouer une pièce de théâtre, je termine deux secondes, en français au Japon, ou en allemand en France, par exemple. Hein?